Alors, dimanche dernier, Paul nous a montré que Dieu aime les petits commencements, mais les petits commencements qui conduisent aux grandes victoires. Et ce livre de Samuel, qui va nous parler des débuts de la monarchie judaïque, notamment des rois David et Salomon, commence dans un cadre tout petit, un cadre très limité. Un couple d'inconnus, comme Paul nous l'a rappelé la dernière fois, Elkana et Anne, qui venaient d'une région inconnue, un petit peu comme la Corrèze de l'époque. Hein, on n'imaginerait pas que des gens importants viennent de là. Voilà, donc ça commence dans un cadre tout petit. Et ça commence aussi par une belle histoire. Anne, la femme stérile, voit enfin sa prière exaucée. Elle donne naissance à un fils et conformément à ce qu'elle s'était engagée à faire, elle accepte de consacrer ce fils au Seigneur, c'est-à-dire, dans le contexte de l'époque, de le confier au grand prêtre, Élie, pour qu'il soit son tuteur. Il faut bien se rendre compte que c'est un geste lourd de sens, c'est un véritable sacrifice. Vous imaginez une femme qui devient maman pour la première fois, alors qu'elle l'a désiré pendant des années, et qui accepte d'abandonner la garde de son fils au grand prêtre, et de ne le voir, semble-t-il, au verset 19, qu'une fois par an. Ça en dit long sur la confiance en Dieu d'Anne et sa capacité de renoncement au nom de cette confiance en Dieu. Elle semble avoir compris que Dieu allait utiliser son fils pour faire de grandes choses pour Israël. Et à partir du chapitre 2 que nous abordons ce soir, l'histoire va rapidement prendre une autre dimension, s'élargir. Et on va voir que l'histoire de Samuel va bientôt se confondre avec l'histoire d'Israël. Et on va examiner ce texte ce soir en deux points. D'abord, on va parler d'une prière de combat. Et ensuite, d'un contraste révélateur. D'abord donc une prière de combat. Alors on l'a dit, l'histoire d'Anne, c'est une belle histoire. Mais peut-être que nous nous concentrons parfois, lorsque nous lisons ce texte, uniquement sur le côté belle histoire. Et nous pouvons passer à côté du caractère extrêmement polémique de sa prière. Alors il faut rappeler le contexte historique. Il n'y a pas de roi en Israël, il n'y a pas de structure politique stable. Le peuple devrait reconnaître que, en fait, c'est Dieu son véritable roi, mais il n'en est rien, le peuple ne le reconnaît pas, et au contraire, il se laisse aller à l'idolâtrie, à la corruption, à l'injustice sociale, à la violence, à l'immoralité. Et c'est dans ce contexte qu'Anne prononce sa prière. Alors, plusieurs commentateurs supposent qu'Anne reprend ici à son compte une prière déjà existante, un psaume qui était connu à l'époque et qu'elle s'est pleinement appropriée. Et effectivement, c'est possible, c'est une possibilité. Mais ce qui est sûr, c'est que sa prière dépasse de loin sa situation immédiate. On aurait pu imaginer que, avant tout, cette prière serait focalisée sur ce fils qu'elle venait d'avoir. Ah, mon petit Samuel, comme je suis heureuse que le Seigneur ait exaucé ma prière, etc. Hein, quelque chose comme ça. Au lieu de cela, on a une prière qui nous dit « L'arc des guerriers est brisé, mais ceux qui trébuchaient se saignent de vaillance. Ceux qui étaient rassasiés se vendent pour du pain, mais ceux qui étaient affamés ont du répit. » Sans doute pas la prière qui vient spontanément à l'esprit aujourd'hui d'une femme qui apprendrait qu'elle est enceinte. Alors, est-ce que la prière d'Anne est hors sujet ? En fait, pas du tout. Ce qui apparaît nettement, lorsqu'on compare cette prière à ce qui suit, c'est qu'Anne a vu dans son exaucement un cas de figure, voire un signe précurseur emblématique d'un retournement de situation que Dieu allait opérer. Dieu allait déposséder ceux qui avaient le pouvoir à l'époque d'Anne, c'est-à-dire pour l'essentiel des hommes corrompus, idolâtres et cyniques, et il allait rétablir son autorité, en tout cas commencer à le faire, en suscitant pour Israël des dirigeants attachés à lui, désireux de servir Dieu et le peuple. Et je relis quelques extraits des versets 5 à 9 qui développent ce thème et qui montrent le lien discret que Anne fait avec sa propre situation. Verset 5, « Ceux qui étaient rassasiés se vendent pour du pain, mais ceux qui étaient affamés ont du répit. La femme stérile accouche 7 fois, mais celle qui avait beaucoup de fils dépérit. » Et un peu plus loin, à la fin du verset 8, « C'est au Seigneur qu'appartiennent les piliers de la terre, c'est sur eux qu'il a posé le monde. Il garde les pas de ses fidèles mais les méchants se perdent dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera pas par la force. Autrement dit, ceux qui bafouent la loi de Dieu et qui pratiquent l'injustice vont à leur perte, malgré leur succès apparent et temporaire. Et on a là, en fait, un thème biblique majeur, les retournements de situation opérés par Dieu. Et dans cette prière d'Anne, il y a plus que simplement la joie d'une femme dont la prière a été exaucée. Il y a aussi la certitude que Dieu va agir pour ramener la justice là où l'injustice règne. Il y a la certitude que Dieu n'a pas dit son dernier mot et qu'il ne va pas abandonner son peuple à la corruption et au mal, même si le peuple le mérite. Pourquoi est-ce que Anne exprime cette certitude au nom de quoi ? Bien, tout simplement parce qu'elle sait qui est Dieu. Au verset 2, « Nul n'est saint comme le Seigneur, il n'y en a pas d'autre que toi, il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. » Et un peu plus loin, au verset 3, « Le Seigneur est un Dieu qui connaît tout, et par lui sont pesés tous les agissements. » Verset 6, « Le Seigneur fait mourir et il fait vivre. » Autrement dit, il a les clés de l'existence humaine jusqu'à sa réalité la plus essentielle, la réalité de la vie et de la mort. Anne constate la réalité d'un monde corrompu, d'un monde pécheur, mais elle sait qui est Dieu. Et c'est ça qui est la source même de son espérance. Un Dieu qui est à la fois saint, souverain et bon, trouvera une solution pour sauver l'homme rebelle de lui-même, pour faire régner sa justice malgré l'injustice des hommes. Et on va voir dans la suite de notre texte que Dieu a commencé à intervenir pour rétablir la justice dès l'époque d'Anne. Mais c'est environ 10 siècles plus tard qu'il a pleinement apporté cette solution au problème du mal dont je viens de parler. C'est 10 siècles plus tard qu'il a ouvert grand la porte à tous les hommes et à toutes les femmes pour qu'ils puissent placer leur confiance en lui et goûter ainsi à son pardon et à sa justice. Et la personne qui est la clé de cette solution, c'est Jésus-Christ. Et ce n'est pas une coïncidence si une autre jeune femme, 10 siècles après Anne, s'est exprimée dans des termes très semblables. Alors que Dieu, par l'intermédiaire d'un messager, venait de lui annoncer qu'elle donnerait naissance au Messie, au roi, au fils de Dieu, voici ce qu'elle a dit. Quelques extraits de la prière de Marie, évangile de Luc, chapitre 1, versets 46 à 55. « Je magnifie le Seigneur, je suis transporté d'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté les regards sur l'abaissement de son esclave. Désormais, en effet, chaque génération me dira heureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Il a déployé le pouvoir de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles, rassasié de bien les affamés. » Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. On voit clairement la proximité entre cette prière et celle d'Anne, 10 siècles plus tôt. Ce qu'il y a de commun entre les deux prières, entre autres, c'est la conviction que Dieu, le Créateur parfaitement juste, va rétablir sa justice dans la création. Nous, 20 siècles encore après Marie, donc 30 siècles après Anne, nous attendons encore ce plein rétablissement. Mais nous croyons, c'est notre conviction dans cette Église, que l'étape décisive de cette victoire de Dieu a été la venue de Jésus-Christ, sa mort à la croix et sa résurrection au dimanche de Pâques. Et si vous êtes là pour la première fois ce soir, ou si vous êtes en questionnement sur la foi chrétienne, même si vous venez régulièrement, je voudrais vous dire ce soir qu'au centre de la foi chrétienne, au centre de notre foi, il y a cette conviction que Dieu est intervenu pour ramener la création sous son autorité. C'est un appel qu'il lance aux hommes et aux femmes qu'il a créés. C'est un appel à revenir à lui, à se détourner d'un monde incroyant, idolâtre, et à connaître le seul vrai Dieu. À la rencontre du dimanche soir, plus largement dans cette église, nous essayons modestement de relayer cet appel au centre duquel il y a Jésus-Christ. On a déjà dit un mot de l'accomplissement ultime de cette espérance, mais revenons maintenant à l'époque d'Anne. On a vu que sa prière, c'est une prière de combat. Bien, dans le reste de cet extrait, on va voir un contraste révélateur. En ce moment, à moins que vraiment vous n'écoutiez absolument pas les infos, que vous ne regardiez pas du tout la télé, que vous n'alliez pas sur Internet, peu probable. Vous savez sans doute que nous sommes, dans la vie politique française, dans une étape de transition, hein, de passation de pouvoir. Alors, il y a eu la passation de pouvoir entre l'ancien président et le nouveau président, et puis il y a eu toutes celles qui ont eu lieu dans chacun des ministères. Eh bien, dans ce texte, nous avons les premiers signes d'une transition, d'une passation de pouvoir. Il y a d'un côté un vieux grand prêtre, Élie, qui, d'après le portrait qui nous en est fait, ne semble pas être un mauvais homme, au fond, mais il est lâche et laxiste. Il tolère l'attitude malhonnête et cynique de ses fils, sans doute par faiblesse. Et alors qu'Élie est très âgé, le verset 2 nous le précise, la question de la relève se pose forcément. Rappelons encore une fois le contexte, hein, pas de roi, l'anarchie règne plus ou moins dans le pays. Du coup, les gens les plus aisés se livrent à l'exploitation. C'est la loi du plus fort, la violence règne. Et dans ce contexte anarchique, c'est le grand prêtre qui avait la charge du leadership spirituel, si on peut dire, du pays. Et si cette charge devait revenir au fils d'Élie après sa mort, eh ben, ça s'annonçait vraiment catastrophique. Et voyons le verset 12. « Les fils d'Élie étaient des hommes sans morale. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. » Et l'auteur nous donne deux exemples de la corruption et de l'impiété de ces hommes. Premièrement, versets 12 à 17, on voit qu'ils bafouent les sacrifices apportés à Dieu. Or, ce premier exemple, quand on le lit dans notre contexte, c'est un peu compliqué. On ne comprend pas forcément exactement de quoi il s'agit. Voilà en deux mots de quoi il s'agit. D'après la loi de Moïse, qui était en vigueur, les prêtres, qui étaient des hommes issus de la tribu de Lévi, qui se transmettaient cette fonction de père en fils, avaient le droit de manger une partie de la viande qui était apportée rituellement en sacrifice. C'était une façon dont ils subvenaient à leurs besoins. Donc on leur laissait une portion de la viande apportée en sacrifice. Ça peut nous paraître un peu bizarre, mais c'était le système à l'époque. Mais ça se faisait d'après des régulations strictes. D'abord, le prêtre devait faire cuire la viande. Il devait faire brûler la graisse, qui symboliquement, parce que c'est la partie la plus riche, si on veut, était la part réservée à Dieu. On est dans le symbole, hein, on est bien d'accord. Mais c'était important, symboliquement. Puis, en dernier lieu, lorsque le sacrifice avait été accompli, le prêtre pouvait prendre certaines parties bien désignées, indiquées par la loi, qui lui étaient réservées. Or, dans notre exemple, les fils d'Élie, eux, ils piochaient ou ils faisaient piocher pour eux. Enfin, le texte n'est pas extrêmement clair là-dessus, mais en tout cas, ils piochaient tranquillement dans la marmite, n'importe quel morceau. Ils prenaient allègrement de quoi manger. Et ils obligeaient les gens qui apportaient un sacrifice à leur donner de la viande, y compris la partie réservée à Dieu, avant même que le sacrifice n'ait été présenté comme il le faut. Donc, en gros, ils prenaient des pots de vin, c'était du vol. Du vol et en même temps, il y avait un aspect, bien sûr, de sacrilège. Vu d'aujourd'hui, on peut se dire ouais, ça paraît un peu dérisoire. Le Nouveau Testament, d'ailleurs, enseigne clairement que les sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament ne sont plus nécessaires aujourd'hui. Ils sont même révolus. Ce serait une erreur de vouloir encore en apporter. Ils avaient une valeur symbolique parce qu'ils préfiguraient le sacrifice de Jésus. Mais maintenant que nous avons eu la réalité, le sacrifice de Jésus à la croix, nous n'avons plus besoin de ces rituels symboliques. Pas la peine de continuer à avoir les symboles si on a eu la réalité. Mais ce qui est choquant dans notre texte, ce n'est pas une histoire de viande, ce n'est pas ça qui préoccupe Dieu. C'est plutôt le fait que les fils d'Élie ignoraient sciemment la loi établie par Dieu pour Israël. Ils n'avaient pas le moindre souci de la valeur spirituelle du sacrifice. Ils n'hésitaient pas à profaner ces rituels institués par la loi, purement pour leur profit personnel. Le deuxième exemple d'immoralité des fils d'Élie, là, ça nécessite moins d'explications, hein, on connaît mieux, verset 22. Élie apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'ils couchaient avec les femmes qui accomplissaient leur service à l'entrée de la tente de la rencontre. Donc, pas besoin d'une grande explication culturelle, là. Rien de nouveau sous le soleil. Les fils d'Élie abusaient de leur position d'influence pour séduire des femmes qui venaient apporter un sacrifice, ou pire encore, il est possible qu'il s'agisse de viol. Le texte ne peut laisser entendre les deux sens, ne précise pas si ces relations étaient consenties ou non. En tous les cas, ils profanaient à nouveau le sanctuaire de Dieu pour leur immoralité personnelle. Ce qui est clair, c'est que l'auteur veut souligner le contraste entre leur comportement et celui d'un autre jeune homme, le même terme est utilisé, Samuel. Au verset 12 à 17, on a la description du comportement des prêtres corrompus, que sont les fils d'Élie. Et au verset 18 à 21, on a une description de l'enfance de Samuel qui contraste totalement avec ce comportement. Verset 18, Samuel porte un éphod de lin comme un pagne, c'est-à-dire tout simplement des vêtements de prêtre. Il n'était pas encore prêtre à proprement parler, mais il en portait déjà les vêtements, façon de dire qu'il se prépare à ce ministère. Ensuite, on voit que les parents de Samuel, qui ont fidèlement tenu leurs promesses, sont bénis par Élie, le même qui, un peu plus loin, condamnera le comportement de ses fils, sans intervenir, mais il le condamnera, en tout cas verbalement. Et les parents de Samuel, donc Elkana et Anne, vont effectivement obtenir la bénédiction qu'il a prononcée, c'est-à-dire qu'ils auront d'autres enfants. Puisqu'ils n'avaient pas la garde de Samuel, ils auront, si je ne me trompe pas, 5 autres enfants avec eux. Et enfin, la fin du verset 21 nous dit que le jeune Samuel grandissait auprès du Seigneur. Et là, il y a un contraste avec le fils d'Élie, les fils d'Élie qui, verset 12, ne connaissaient pas le Seigneur. Donc l'un grandit auprès du Seigneur, les autres ne connaissent même pas le Seigneur. Et le contraste est à son paroxysme au verset 25 et 26. On a le Seigneur qui veut faire mourir les fils corrompus d'Élie, tandis que le jeune Samuel lui est agréable. Pourquoi ce contraste? Je crois que le narrateur veut nous faire comprendre que ce pourquoi Anne a prié, l'intervention de Dieu pour rétablir la justice et renouveler la vie spirituelle du peuple, eh bien ça commence à se réaliser. Et il nous laisse entendre que Samuel va jouer un rôle clé dans cette réforme spirituelle. Et là, il nous faut revenir donc à la fin de la prière d'Anne, verset 10. « Ceux qui cherchent querelle au Seigneur seront brisés. Contre eux, dans le ciel, il tonnera. Le Seigneur jugera les extrémités de la terre. Il donnera de la puissance à son roi. Il élèvera la corne de l'homme qui a reçu son onction. » La question que nous devons nous poser en lisant ces lignes est la suivante. Mais de quel roi est-ce que Anne parle? Il n'y a pas de roi au moment où elle s'exprime. Il me semble qu'Anne a clairement discerné que la naissance de son fils n'était pas seulement une réponse à sa prière. C'était aussi un moyen que Dieu allait utiliser pour restaurer son autorité sur son peuple. On va voir que Samuel jouera un rôle décisif dans la désignation du roi David, un roi suscité par Dieu, pour diriger son peuple dans la fidélité à Dieu. Et si on lit la Bible de façon globale, si on est sensible au fil conducteur de la Bible, on verra au-delà même de David, le roi avec un grand R, celui qui apportera la réconciliation et la paix avec Dieu et la possibilité d'une vie entièrement renouvelée par lui, avec lui. Le roi Jésus-Christ, celui que nous appelons le Seigneur. Quand on dit le Seigneur, ça veut dire tout simplement le roi. Quand on dit même le Christ, ça veut dire tout simplement le roi. Un roi que le Nouveau Testament nous présente également comme le véritable grand prêtre qui a parfaitement et définitivement accompli le sacrifice réparateur des fautes de l'homme. Je voudrais vous laisser avec deux questions pour la route. La première, avons-nous oublié qui est Dieu? Ou avons-nous un peu laissé échapper à notre mémoire qui est Dieu? Souvent, je crois que nous avons l'impression de vivre une situation qui est au-delà de l'intervention de Dieu. Soit par l'ampleur d'un malheur que nous vivons peut-être, ou bien par l'ampleur de notre démérite, de nos fautes. Nous nous disons peut-être que nous sommes des cas désespérés. Mais comme Anne, rappelons-nous qui est Dieu. Et trouvons dans la nature même de Dieu l'assurance de son intervention. Le Dieu saint et juste, parce qu'il est qui il est un Dieu qui a la victoire sur le mal que nous subissons ou le mal que nous commettons. Et souvent, c'est un peu les deux ensemble. Ce n'est jamais dans nos propres ressources, mais toujours dans les siennes, que nous trouverons la délivrance. Tout simplement parce qu'il est le Créateur souverain et que nous avons été créés pour vivre en relation avec lui. Et deuxième question, sommes-nous plutôt comme les fils d'Élie ou comme Samuel? On sait ce qu'on a envie de répondre. Si nous sommes honnêtes, peut-être un peu des deux. Peut-être que personne ici n'est aussi cynique et immoral que les fils d'Élie. Encore que, j'en sais rien, hein, mais peut-être que, on peut espérer que c'est le cas de personne. En même temps, reconnaissons que nous ne passons pas tout notre temps à vivre de façon agréable à Dieu et aux gens autour de nous. Alors, je n'affirme pas ici que Samuel était parfait, hein, au sens plein du terme. Non, certainement pas. Mais il nous donne globalement un modèle d'obéissance. Et là, je voudrais attirer votre attention sur ces paroles d'Élie au verset 25. Un verset très, très important. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu arbitrera pour lui. Mais si un homme pêche contre le Seigneur, qui arbitrera pour lui? Très bonne question. Et cette question, dans un premier temps, elle devrait en tout cas nous interpeller et même nous faire peur peut-être. Après tout, n'avons-nous pas tous péché contre Dieu de diverses manières, peut-être passivement, peut-être très activement? Or, c'est intéressant de voir que la question d'Élie est laissée ici sans réponse. Si un homme pêche contre le Seigneur, qui intercédera pour lui? Et la réponse biblique est que, puisque nous étions incapables par nous-mêmes de plaire à Dieu, c'est Dieu qui, de sa propre initiative, a décidé de nous pardonner et d'être précisément celui qui intercède pour nous, celui qui est notre défenseur. Qui intercédera pour lui si un homme pêche contre le Seigneur? La réponse que donne l'Évangile, c'est Dieu lui-même. Alors que Dieu aurait dû être contre nous à cause de notre péché, il a décidé souverainement de devenir pour nous grâce à la médiation de Jésus-Christ. On l'a chanté tout à l'heure. C'est ce que l'apôtre Paul écrit beaucoup plus tard, toujours dans sa lettre aux Romains, cette fois au chapitre 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Un peu plus loin, à propos de Jésus, au verset 34, dans le même passage. Bien plus, Jésus est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui intercédera pour nous si nous péchons contre Dieu? Dieu lui-même, par la personne de Jésus-Christ. La bonne nouvelle réside dans le fait que Dieu a inversé la question d'Élie. Cette question était, quelle espérance pourrait-il y avoir pour quelqu'un qui offense le Créateur Tout-Puissant? Et la réponse que donne l'Évangile est la suivante. Quelle condamnation pourrait-il y avoir pour quelqu'un qui est pardonné par le Créateur Tout-Puissant? Je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous te remercions parce que tu as inversé cette question, ou tu en as inversé la réponse également. Nous qui n'avions pas de recours si nous avions péché contre toi, eh bien tu as toi-même décidé dans ta grâce de nous pardonner. Tu l'as fait par Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, par sa résurrection, et nous voulons reconnaître que c'est seulement si nous plaçons notre foi en lui, si nous avons le regard fixé sur lui, si notre espérance est ancrée en lui, que nous pourrons obtenir ce pardon. Nous te remercions parce que pour beaucoup ce soir, je sais que tu as déjà ouvert nos yeux sur cette grâce que tu nous fais. Et je te prie de le faire encore pour d'autres qui continuent à penser peut-être, plus ou moins consciemment, qu'ils pourront définir eux-mêmes leur vie et la vivre conformément à leurs propres principes de vie. C'est ce que notre monde proclame à chaque instant. Et toi, tu nous dis que c'est en toi que nous trouvons le sens de notre vie. Non pas pour perdre le sens de notre vie, mais au contraire, pour trouver la vie dans sa plénitude. Seigneur, je veux tout simplement te dire merci, parce que c'est cela la grâce. Au nom de Jésus. Amen.